les amis.
Salut Charlie.
Bon, c'est qui l'invité?
C'est Raphaël Personnage.
Ah oui, pour du théâtre.
Oui, il joue dans Scène de la vie conjugale de Bergman.
Ah voilà, c'est
oui,
ça.
Avec Laetitia Casta.
C'est ça.
Mais quelqu'un a été voir la pièce d'ailleurs.
Oui, Alex.
C'est bien, il est toujours enthousiaste avec les spectacles.
Salut les amis.
Salut Alex.
Alors, c'est quoi les sujets aujourd'hui?
Tu ne dirais pas plutôt ce que tu as pensé de la pièce?
Quelle pièce?
Avec Raphaël Personnage.
Ah oui, je vais être très honnête avec vous.
T'as pas aimé?
C'est pas ça, non. Je crois j'ai pas compris la pièce.
T'as pas compris du Bergman?
C'était en suédois?
Non, c'était en français. Mais
ils jouent bien.
Ah mais ils sont formidables les deux.
Quand même.
Ah oui, lui hyper touchant. Laetitia Casta mais tellement sensible.
Mais quoi, Laetitia?
Il y a trop d'incohérences.
Dans du Bergman.
Mais oui, mais excusez-moi, mais quand je vais au spectacle, moi je me projette.
Ouais, enfin, alors.
Eh ben, il y a un moment dans la pièce. Il quitte Laetitia Casta.
Attends, c'est de la fiction, c'est une pièce.
Ouais, mais ça m'a déstabilisé. Mais comment tu veux que je me projette, moi?
Mais au début de la pièce, ils sont ensemble.
Oui.
Et là, ça t'a pas posé de problème de te projeter en couple avec Laetitia Casta, par exemple?
Ben non, c'est crédible. D'autant qu'elle couche plus avec moi. Enfin, avec lui.
Non, c'est une fiction, c'est une pièce, en fait.
Donc, Raphaël Personnage, tu vois. Bon, alors, Laetitia Casta, c'est pas son genre.
C'est ça.
Et il cherche de nouvelles aventures.
Mais oui, c'est ça. C'est bizarre comme pièce.
Mais non, mais moi, je comprends très bien, enfin, Personnage. Mais parfois, il y a pas que le corps, Alex. Il y a aussi des femmes de conviction.
C'est de la fiction. C'est une pièce en fait.
Ah oui, pardon.
Bah oui.
Ah, c'est une pièce.
Oui.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait n'importe quoi avec l'argent de vos impôts. Et voici les trois informations qui ne sont pas déductibles de votre redevance. Macron et Mélenchon peuvent dire merci au sondage. Sans eux, les électeurs de Benoît Hamon ne se seraient pas carapatés chez l'un et chez l'autre. On ne parlerait pas de vote utile et Macron ne se verrait pas déjà élu. Donc si un sondeur vous appelle, sachez bien le recevoir.
Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous.
L'état d'urgence est en place depuis plus de 500 jours. Des associations et des universitaires demandent à François Hollande de ne pas oublier de l'éteindre en partant. Parce que ce qui devrait être une situation exceptionnelle est devenu normal.
Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Épargnez de la vaisselle et apprenez à désamorcer les conflits dans le couple. Un institut londonien prétend que ça peut se faire en deux phrases démonstration.
Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui avec qui je ne me suis jamais disputée. Et heureusement, sinon, qui va avoir la garde de Guillaume? C'est Alex Vizorek.
Merci papa, maman.
Bonjour, on décrira les scènes de notre vie conjugale à la radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, belle équipe, 17h20. Celle qui est DJ, mais qui à côté de ça a un vrai métier. Elle passe des disques sur une radio d'excellence. C'est vous, Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'intérêt de la vulgarité dans la musique. Avec le trio Schlass de Saint-Etienne.
Oh, très bien. 17h30, celui qui passe la plus belle semaine de sa vie. Il est là où l'histoire se fait. Au point que je me suis demandé si c'est pas l'histoire qui s'enorgueillit de se trouver là où il fait ses chroniques. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et bien, je suis allé hier après-midi au meeting d'Emmanuel Macron à Bercy, figurez-vous. Macron, le candidat du renouveau, jusque dans ses soutiens.
Moi, j'étais au RPR avant.
Oh, ça fait du bien le renouveau, putain. Et 17h40, celui qui est au sport, ce que Jacques Cheminade est à la planète Mars. Il en est passionné, il en parle beaucoup, mais il ne s'en est jamais vraiment approché. C'est vous, Samir Bouadi, bonjour.
Bonjour Charlie, bonjour Alex, bonjour tout le monde. Écoutez, moi, j'ai passé un week-end pascal très religieux, donc j'ai lu un dictionnaire de la laïcité. Comme je sais que Charline voulait à tout prix que je parle de Bastia et des supporters de Bastia, bah, je vais lui faire faux bon. On va plutôt parler de laïcité.
C'est comme un sport comme un autre.
Absolument, dangereux d'ailleurs.
Et voici enfin celui qui a tout annulé pour nous. Vous apprenez le métier dans les cours de théâtre et jouez au cinéma aux côtés de Karine Viard dans Les Invités de mon père. Vous êtes à deux doigts de vous reconvertir dans l'huile d'olive quand Bertrand Tavernier vous propose le rôle qui va changer votre vie, le duc d'Anjou dans La Princesse de Montpensier. Vous jouez ensuite notamment dans Quai d'Orsay. Vous êtes Marius dans la trilogie marseillaise de Daniel Auteuil. Vous êtes donc, vous êtes...
Moi-même.
Mais oui, c'est ça.
C'est compliqué. Raphaël, bonjour.
Bonjour. Mais le Raphaël Personnage.
Mais oui,
absolument. Oh là là.
Calmez-vous. Si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Raphaël Personnaz. Alors je ne vous cache pas que donc les garçons ont milité pour Laetitia Casta, moi j'ai milité pour vous.
C'est gentil. On n'était pas contre vous, c'est notre problème.
J'entends, mais je...
Car vous jouez dans la pièce Scène de la vie conjugale avec Laetitia Casta, mise en scène de Safi Nebout, tirée du film d'Ingmar Bergman. Vous êtes au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 30 avril. Alex Vizorek est allé vous voir.
Tirée de la série d'Ingmar Bergman, qu'on a fait des épisodes, puis on en a fait un film. Puis c'est ici une pièce. Il y a un petit hommage au cinéma au début, c'est-à-dire qu'on vous voit projeter ce couple... normal d'une certaine manière, 35 ans, ils vont bien, ça les fait réfléchir le fait qu'ils aillent bien, Johan, Marianne, et puis à un moment lui, il lui dit que ça va pas si bien que ça et qu'elle aurait dû s'en rendre compte.
Elle aussi, hein, d'ailleurs. Mmh. L'image qui est projetée au début d'eux-mêmes, en fait, c'est une interview qui donne comme ça.
Psy, c'est un peu ça. Ouais,
en fait, dans le film, c'est une interview, hein, clairement. Donc, ils se donnent un petit peu en spectacle. Enfin, c'est leur couple qui se donne en spectacle. Donc, tout a l'air parfait, mais c'est un petit peu angoissant, moi, je trouve. Donc, ils se regardent au début, parlant d'eux-mêmes, de leur amour qui existe depuis 10 ans, etc. Et en fait... tous les deux se réveillent le lendemain avec une volonté de se dire la vérité aussi. Et se dire la vérité dans un couple peut amener évidemment à quelques surprises et quelques tensions, quoi. Mais c'est assez touchant de voir deux personnes qui essayent de se débattre avec leur sincérité et qui essayent d'être sincères dans le couple. Évidemment, eux n'ont pas cette habitude-là. Peut-être qu'ils sont plus dans des codes, dans un formatage. Donc, d'un coup, ils essayent de sortir de leur zone de confort. Donc, c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs, de voir leur évolution.
Mais c'est-à-dire qu'ils se disputent, mais ils ne se disputent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils intellectualisent.
Ah, c'est Macron, ça, attendez.
Oui. peut-être qu'ils se disputent comme ça avec Brigitte. C'est-à-dire qu'ils intellectualisent leur dispute et ils parlent vraiment de leur ressenti au point qu'elle le comprend presque quand il s'en va. Elle lui dit « Je suis prêt à peu près tout faire si tu veux bien rester, mais explique-moi ».
Oui, en tout cas, c'est un peu bizarre sa position à elle. Alors vous auriez dû inviter Laetitia Casta pour en parler. Elle en
parlera. C'est pas de ma faute, mon petit gars.
J'y suis pour rien. Alors je vais parler un peu à sa place. Mais en tout cas, son personnage de Marianne au début est quelqu'un qui veut absolument comprendre et qui est parfois dans le déni. Elle serait pas contente si je dis ça, mais et qui en tout cas est prête à toutes les concessions parce qu'elle est folle d'amour pour ce type qui lui est un petit peu plus cynique et s'en va au bout d'un moment, donc vous l'avez dit, avec une jeune fille, une fille plus jeune, etc. Mais c'est parce qu'il est avec une femme qui en face de lui sans doute lui donne cette place là et il ne se retrouve plus dans ce rôle de type sur qui tout repose. Et je sais plus si je réponds bien à votre question. Je m'embrouille. Vous m'impressionnez.
Vous êtes pas
Et je vous regarde là et vous m'impressionnez. Voilà. Et
parce qu'on est nombreux.
Oui, vous êtes très nombreux.
C'était le cas inverse quand j'étais dans la salle la semaine dernière.
Bon, c'est très gentil. Mais en tout cas, oui, c'est cette. Mais c'est un couple. Alors, c'est évidemment le film de Bergman qui est tiré d'une série qui date de 73. Mmh. Qui à l'époque avait été vu par la moitié de la Suède, qui avait provoqué une vague de divorces.
Oui,
et dans la salle, c'est la même chose d'ailleurs. On sent que ça provoque des débats, mais même pendant la pièce d'ailleurs, on entend les gens. Moi, je me suis fait traiter pas mal de connard, de salaud, comme ça.
En fait, on disait dans la conf de rédac, on se projette.
Ouais.
Moi, j'y étais seul, mais évidemment, j'avais beaucoup envie d'en parler à la sortie, alors j'avais personne.
Mais revenez.
Mais oui, mais
il faut l'avoir deux fois, cette pièce.
Mais c'est pas mal de l'avoir seul parce que très régulièrement, on a envie de se dire, tiens, ça, je l'ai pensé, là, je comprends.
Allongez-vous,
pas.
Allongez-vous, Alex Vizorek, on va en parler.
Mais je pense que toute la salle a pensé ça parce que Bergman écrit ça de sa relation avec Liv Ullmann, donc ces deux stars, ils n'ont pas une vie comme les personnages. Et en même temps, il a écrit de manière très très juste la vie de gens normaux. Donc tout le monde peut se projeter dans ces deux personnes-là.
Absolument. C'est vraiment le récit de Liv Ullmann et de Bergman. On a vu un documentaire en répétition avant de jouer la pièce. On voit Liv Ullmann à 75 ans qui parle de son amour. Et on voit toujours dans ses yeux des yeux amoureux. Elle est, on dirait, une jeune fille qui parle de son jeune amant. Ce qui est fascinant quand on joue cette pièce, on voit très très bien dans la pièce. Nous sur scène, on voit très bien les spectateurs. Donc, je vais vous dire, il y a trois jours.
Ne dites pas de quoi je ressemblais.
Vous étiez passionné j'ai vu où vous étiez, je vous ai très bien vu. Non, il y avait un couple au premier rang qui était un peu âgé et je voyais ces gens-là qui se prenaient comme ça par les bras en regardant la fin de la pièce. Alors, je vais pas divulguer la fin de la pièce, mais elle est quand même un peu heureuse puisqu'il s'agit quand même d'une histoire d'amour sur 20 ans. Et c'est évidemment, je voyais bien que ça allait toucher, mais qu'ils avaient passé peut-être les périodes orageuses auxquelles la pièce fait écho. Je pense que vous avez bien fait de venir seul la première fois. Revenez-y. Puisqu'on prolonge jusqu'au 28 mai, j'en profite pour le dire.
Voilà.
Et oui,
et
bien sûr.
On peut vous voir du mercredi au samedi à 21h et le samedi et le dimanche à 17h.
Voilà.
Donc vous pouvez le voir même deux fois sur la même journée, le samedi et le dimanche.
Alors là, personne ne l'a fait pour l'instant.
Pas encore, mais vous pouvez essayer.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas inviter Laetitia Casta parce qu'elle est sur scène, du coup.
Oui, mais moi, je suis
en ça, c'est embêtant.
Ouais. Comment...
Scène de la vie conjugale, c'est au théâtre de l'œuvre jusqu'au 28 mai, donc Laetitia Casta. Raphaël Personnaz, qui est notre invité jusqu'à 18h. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Woman trying to catch a trick on the street. You better cross 110th Street. You can find it all in the street. Ooh. Oh. I got one more thing to talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all. Bobby Womack, Across 110th Street, c'est entre la rue du petit chien qui fume et la rue du chat qui pète, sur France Inter, en compagnie de Raphaël Personnaz, qui est sur scène. Alors aujourd'hui c'est relâche, parce que vous jouez à partir de demain jusqu'à samedi, c'est la 21h, le samedi et le dimanche deux fois, à 17h et 21h, scène de la vie conjugale avec Laetitia Casta, tirée de la série du film d'Ingmar Bergman. Autour de la table, pour entourer Raphaël Personnaz, Alex.
Eh bien, dans notre grande vie conjugale, nous avons Guillaume Meurice, oui. Nous avons Samir Bouadi et Mélanie Bauer.
Et l'information, bien sûr, entendu. C'est l'heure où l'actualité met les doigts dans la prise.
Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine.
Le journal de presque 17h17.
À moi, à l'assassin !
C'est l'élection présidentielle. Et on commence par les titres.
Depuis vendredi, la sécurité autour de François Fillon a été renforcée.
Et bizarrement, comme garde du corps, il n'a pas employé ni sa femme, ni ses enfants.
En meeting au Zénith de Paris, Marine Le Pen l'a assuré, elle aurait pu éviter les attentats en France.
Oui, bien sûr, bien sûr. Elle n'arrive pas à se débarrasser de son père et elle aurait pu éradiquer Daesh.
Et des brèves ?
Ben oui, on ne peut pas éviter les brèves en France.
Et on commence par...
François Fillon.
Oui, c'est ça.
Je suis balèze. Continue.
Depuis vendredi, la sécurité autour de François Fillon a été renforcée.
Oui, heureusement, parce qu'en cas d'attentat, je ne me sens pas encore prêt à faire « Je suis Fillon
». Alain Juppé a quant à lui laissé entendre qu'il pourrait s'afficher publiquement mercredi aux côtés de François Fillon.
Ah, mais c'est sûr qu'entre les deux champions de l'emploi fictif, un soutien fictif s'imposait.
Passons à Emmanuel Macron. Oui. Il a annoncé que si on refusait deux propositions d'emploi, on ne pourra plus toucher le chômage.
Oui, mais attention Manu, parce qu'il a déjà refusé le ministère de l'économie. Si là, il rate le job de président de la République, il va plus avoir d'alloc, le pauvre.
La presse belge révèle qu'Emmanuel Macron aurait dîné début mars chez Stéphane Bern avec le premier ministre belge Charles Michel et le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.
Stéphane Bern, le premier ministre belge et le premier ministre luxembourgeois. Je suis désolé, ami français, je crois qu'Emmanuel Macron se renseigne pour passer de la République au Royaume.
Ce matin, à l'aube, Emmanuel Macron était à Rungis.
Oui, ça a dû lui faire tout bizarre de voir des produits frais. Hein. Lui qui avait réuni la veille Line Renaud, Geneviève de Fontaine et Robert Hue.
Passons au FN. Hier, au meeting à Paris, c'est le comédien Franck de la Personne qui était chargé de chauffer la
mais
salle.
Oui. Ouais, et ben Personnaz, écoutez-moi ça, prenez-en un peu de la graine, parce que là, il y a du champion.
Tu piques l'argent des Français, tu le planques dans le sac de ta femme. Oh non. Oh. Oui, mais attention, toi, tu as un cabinet noir. Oh, mais c'est même pas vrai. Parce que nous, on est les gentils batraciens. En oui, partout où je vais, il pleut.
Beaucoup de gêne, À sa décharge, il n'avait pas l'habitude de jouer devant autant de monde.
À gauche, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, l'a annoncé. Il votera Benoît Hamon au premier tour. Voilà, c'est une info comme une autre.
Hein, oui, mais je pense qu'on en est arrivé au stade où même Benoît Hamon s'en tape complètement de savoir qu'on va voter pour lui.
Et aujourd'hui, à 19h30, Jacques Cheminade tiendra un meeting sur Internet qui sera diffusé sur les réseaux sociaux.
Voilà, je vous déconseille donc de vous connecter à Internet pendant cette heure-là parce qu'il risque d'y avoir une saturation d'enfer.
On termine avec cette campagne. Oui. Finalement, France 2. France 2 réunira bien les 11 candidats pour une même émission jeudi soir.
Eh ben génial. Je suis très content de voir la suite hein, de Poutou 1, Poutou 2. Ça va être super.
International.
Oui, terrorisme à Londres. Un bébé de 3 mois a été convoqué par l'ambassade américaine pour terrorisme.
En effet, sur le formulaire du visa, son grand-père avait coché une case qui confirme les ambitions terroristes du gamin.
Voilà. Alors certains prétendent l'avoir entendu crier « Are Akbar ». Non. Mais cela dit, sa couche était pleine, c'était pas très agréable, mais ce n'est pas encore considéré comme une arme chimique. Oui. On aime, on vous en parle, Charline. Je suis tombé hier sur un sketch du collectif de youtubeurs Lollywood et j'ai bien ri. Il mettait en scène l'élection d'un délégué de classe en CM2. 5 candidats, François, Marine, Emmanuel, Jean-Luc et Benoît, exposent leur programme à la classe.
Donc moi c'est François et je voudrais qu'on travaille plus pour avoir les meilleures notes des CM2 de toute l'école.
Moi c'est Jean-Luc et François il dit n'importe quoi. Il y a trop de devoirs. Donc je dis vive la récré. Ouais.
Moi c'est Benoît. Je trouve qu'il y a trop de devoirs aussi et donc pas assez de récré.
Marine.
Alors moi je propose qu'on favorise notre classe, les CM2A par rapport aux autres CM2. Parce que je les aime pas.
Emmanuel.
Moi c'est Manu. Bah, je suis un peu d'accord avec François, mais c'est pas bête ce que disent Benoît et Jean-Luc.
On termine par une brève.
Mais oui, petite brève. Dans les Landes, ivre virgule, ils se rendent en boîte de nuit en tondeuse à gazon. Si ça se trouve, ils étaient prêts à consommer de l'herbe.
Vous êtes sur France Inter en compagnie de Raphaël Personnaz qui essaye de se remettre de toute cette information, bien sûr. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Beaucoup de Français se prendraient beaucoup moins la tête dans un monde sans sondage. Ils poussent les électeurs dans les bras de Macron. Ça fait 2 ans que les sondages prévoient Marine Le Pen au second tour. Puis là, c'est plus tout à fait sûr. Et ils décident certains à abandonner Hamon pour gonfler le score de Mélenchon. Les sondages ont une grosse influence sur les élections dans ce pays. Qu'en pense-t-on dans l'opinion publique ?
J'ai honte quand elle descend. Je la
parti, hélas.
Raoul de Godvarsfeld.
Magique.
Bien dit, d'un coup.
Alors, Raphaël Personnaz, le citoyen, et j'imagine qu'il regarde un peu cette campagne, cette élection, les sondages, ou peut-être vous faites-vous influencer comme beaucoup de gens, comme nous d'ailleurs aussi, hein, sur les, à cause des sondages. Est-ce qu'il faudrait, est-ce que vous êtes de ceux qui se disent, tiens, est-ce qu'il faudrait pas les interdire, se débarrasser de ce truc? Parce qu'en ce moment, tout le monde élabore des stratégies, pense au second tour, etc.
Il y a la réponse base dedans. Attention.
Bah non.
Alors, est-ce comme que ce serait pas une super idée? Comme je savais que vous alliez me parler de ça, je me suis un peu renseigné sur le sujet.
Bien.
Alors,
vous
savez que le sondage remonte à 1936.
Oh, ah non, je sais pas, moi.
Vous savez que les instituts de sondage ne font que 1% de leur beurre avec les sondages politiques.
Ah bon? À Brice Teinturier, Brice Teinturier dit 12. Brice Teinturier dit 12.
Combien vous dites?
12, il dit Brice Teinturier.
Oui, mais il dit des conneries déjà dans ses sondages. Donc,
et j'ai vu que Mélenchon, lui, voulait interdire, avait dit ça, qu'il voulait interdire, j'ai lu ça dans l'IB, qu'il avait voulu, qu'il aurait voulu qu'on n'ait plus de sondage 2 mois avant l'élection.
Mm-hmm.
Et apparemment qu'en 2002, on n'avait plus le droit au sondage 1 semaine avant l'élection.
Exact. Ouais.
Et alors pourquoi ça a été changé?
Merci pour ces informations.
Ça a été changé à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la montée de Le Pen à ce moment-là, vous pensez? Parce que on m'a dit attention, on va parler de ça et ça. Je dis ok, d'accord, allons-y.
Mais nous, ce que vous savez pas, c'est qu'on est des branquignoles.
Vous n'avez pas du tout bossé le sujet, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
On pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Vous venez d'où là?
Mais vous entendez très très bien. Je trouve au contraire, c'est bien. On apprend plein de choses pour le
coup. Oui, c'est vrai.
Ça sera pas le cas sur tous les sujets.
C'est pas grave. Mais est-ce que vous-même vous vous sentez un peu influencé? C'est-à-dire que quand vous voyez qui sera probablement au second tour, quels seront probablement les deux les personnages au second tour, etc. Vous prenez un peu la tête là-dessus. Donc,
ouais.
Donc
vous moi j'adorerais ne pas être influencé et voter vraiment pour des convictions. Mais c'est vrai que souvent, on vote par stratégie. Moi, je sais que j'ai souvent voté contre pour éviter que certaines personnes passent, bref, mais rarement pour des convictions. Est-ce que c'est les sondages qui m'ont induit, qui m'ont fait aller là-dedans? Sans doute, sans doute.
Pardon, si je me permets, il n'y a pas que les sondages, parce qu'il y a aussi la manière dont la presse,
se base sur les sondages.
Absolument, mais par exemple, dans le cas d'une certaine candidate à l'élection présidentielle, elle est au second tour depuis toujours, elle est déjà au second tour pour tout le monde, et en fait, il y a ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'à force de matraquer des certitudes, c'est très compliqué, parce que moi j'entends des gens dire bon, ça c'est fait, ça va être comme ça, etc.
Ah bah tout le monde a lâché l'affaire là, on est d'accord.
Alors c'est mathématique au départ, c'est une modélisation mathématique du réel sur un panel. Alors après il y a la taille de l'échantillonnage qui est pris en compte, mais c'est vrai qu'effectivement
gens qui ont plus de téléphone fixe
en plus, voilà.
Raphaël Personnaz, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je pensais à tous ces gens qu'on voyait déjà en haut de l'affiche, quoi. Pensais à Juppé il y a 6 mois.
Si un sondeur vous appelle, vous le recevez comment? Vous répondez?
Mais je crois que je répondrai pas.
Ah voilà. Et bien justement, c'est sans doute le cas de plein de gens, parce que je rappelle, alors c'est un article très intéressant dans Les Échos aujourd'hui, qui rappelle quand même que les sondages, c'est une partie du système, et comme l'antisystème, c'est le thème central de cette campagne, quand vous pensez qu'il y a les sondeurs qui appellent, bonjour, c'est le système qui vous appelle, il faut bien penser qu'il y a des gens qui répondent pas, donc que c'est encore plus de la merde que d'habitude, c'est voilà. Ça qui est formidable. On est tous d'accord. Vous voyez, il y avait la réponse dans la question, mais vous êtes d'accord, que je vous dise, moi. Mélanie Boer,
voilà, sujet rondement mené.
Sans transition.
Suivant.
Alors, puisqu'on est dans la vulgarité, on va rester dans la vulgarité. Il y a une forme de juif. Vous avez dit merde il y a 2 secondes.
Oui, c'est dans le dictionnaire. Alors, vous signez que c'est dans le dictionnaire.
Elle a dit Brice Teinturier, c'était pire.
Il y a une forme. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de jouissance dans la vulgarité. Quand Geneviève de Fontenay dit merde, on est comme envahi d'un petit frisson de plaisir. Quand Catherine chante Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la Ray, on ne peut pas s'empêcher de sourire parce que la vulgarité est partout. Il n'y a qu'à écouter les chroniques de Guillaume Meurice. Non, pas vous, Guillaume. Les gens, hein?
Ah oui.
Les gens sont violents, intolérants. Ils se cachent derrière des idées pseudo-politiques ou économiques pour être simplement peureux, mesquins, jaloux, envieux. Autant de sentiments vulgaires. Alors quand on entend un artiste comme Gainsbourg ou Coluche, par exemple, dire des gros mots, on se sent comme un enfant au stade anal, libéré par un pipi-caca tout simple qui nous rend gamins, purs, innocents. Voilà, c'est le cas avec Schlass, qui se définit avec beaucoup de second degré en tant que groupe de rap catholique de droite. Ils viennent de sortir Casa Plaisance, un disque enregistré grâce au crowdfunding des fans et qui commence par un titre vulgaire et libératoire, Kiki.
Mon cerveau, c'est...
ta bite. Tes biceps, c'est ta bite. Ta maison, c'est ta bite. Tes tatous, c'est ta bite.
Ça tranche avec Bergman.
Kiki, c'est le rap macho, la virilité que l'on déteste, qui nous impose ses parties génitales comme pièce maîtresse de sa pensée. C'est le rap qui tâche avec les calaches et les filles à poil. Sauf qu'ici, on ne justifie pas son propos par de la lutte des classes ou bien de la guéguerre de mecs. Non, on est basique, c'est tout simplement la bite. Casa Plaisance, le disque de Schlass, c'est ça, un vomi joyeux de toute la culture underground, des street artists qui sortent la nuit comme des gangsters pour dessiner des petits chats sur les murs, des alcoolos zombies éructant dans des bars glauques, du cul sale, le rebut de la société, les moches, les vulgaires. Schlass est assez proche des Sud-Africains de Die Antwoord. Vous vous souvenez du film Chappie ?
Non.
C'est une sorte de robot un peu naïf, gentil, enlevé et élevé par des racailles pour les aider à voler. Die Antwoord jouait les rôles de ces marginaux, ces mal élevés, ces bruyants, des cousins de Schlass, mais de l'autre bout du monde. Alors, bon, on est moins choqués parce qu'ils chantent dans un argot sud-africain.
C'est plus Schlass, en effet.
Et qu'on n'y comprend rien, mais le propos est tout aussi trash hein, que celui de Schlass. Schlass, c'est le couteau naïf et tranchant. C'est plus compliqué à écouter parce que ici, on comprend parfaitement l'accumulation d'insultes et d'insanités. Mais c'est bien. c'est pas pour toutes les oreilles, c'est sûr. Mais il y a une forme de libération et de jouissance dans la vulgarité. Dire un gros mot quand on s'est fait mal, quand on se sent impuissant face à une violence, quelle qu'elle soit, et ben ça fait du bien. Schlass, c'est ça. La musique qui choque les parents, l'insulte au bon goût, le coup de couteau dans la bien-pensance. Alors, bien sûr, ça me plaît. Parce que c'est pas de la culture, c'est pas joli, c'est pas facile à écouter, mais ça pète. Je vous ai trouvé un morceau diffusable sur ce disque. Parce que oui, même dans la pire des soirées des glingos, il y a toujours un moment de tendresse. C'est Bisous. Oh.
Des fausses promesses et des couteaux. Pince-moi les fesses, bébé, dans le dos. Je voudrais être ton perfecto, la plus jolie de tes motos. Chevauche-moi éternellement la peau de ton serpent, le tatouage sur ton dos, la mort avec la faux. Toutes les fêtes de la ville, que tu cours toujours vers moi. La bagarre, la nuit, les deals, mes sentiers qui suivent tes pas. Ton alcool préféré, pin-up cool sur la BD. Ton rêve de cobalt, ta voiture, ton cheval. L'essence et le désert. Le sang.
Mais je sais faire vibrer la nuit, pas besoin de super princesse. Fais papillon ou lavabo, fleur du Japon ou elle de West. Ni bijoux, ni joujou, déco. Oublie ce que tu sais, tout naître, on verra. Ton levier d'un papa, je t'ai caressé. Levier de vitesse, enfonce les rangs, se laisser. Le seul secret, c'est que des fesses. Le cosmos s'est déployé. Confetti, l'étincelle explosée. Faire vibrer la nuit, faire danser la nuit. Danser dans la nuit, danse, danse.
C'est le rap électropunk de Schlass qui chante Bisous. Oui, ils seront en concert au Trabando le 22 mai prochain. L'album s'appelle Casa Plaisance.
Zut, c'est
merci.
Merci, ça Mélanie Boer.
Pas bien.
Nous sommes en compagnie de Raphaël Personnaz que vous pouvez voir sur scène avec Laetitia Casta dans Scène de la vie conjugale au Théâtre de l'Œuvre jusqu'à la fin mai. On va en reparler à la fin de cette émission avec un thème d'actualité tout choisi sur le couple. En attendant, Raphaël Personnaz,
je vous présente Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi. Eh ben, j'étais à Bercy hier après-midi. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. J'ai d'abord pensé que j'étais une compétition de windsurf. En plus, dans le public, il y avait plein de girouettes, hein, essentiellement socialistes. Mais en fait, non, c'était Emmanuel Macron qui faisait un discours. Manu le ventilo, comme on l'appelle. Un beau discours avec du souffle, hein, quoi. C'est logique. Le brushing de Lynn Renault n'a pas tenu plus de 10 minutes. La dignité de Jean-Yves Le Drian non plus. Hein. Faut dire qu'elle est pas très, très solide non plus à la base. Alors, le problème, quand même, quand on bâtit un discours sur du vent, c'est qu'on a un électorat volatile. On peut perdre des votes sur une connerie. Exemple, une personne qui voulait manger dans Bercy.
Vous rentrez là avec un sandwich ou n'importe quoi et vous dites de le jeter dans la poubelle.
Ah, c'est
non,
parce
je
ne
vais pas
que...
voter.
Ah, vous vouliez voter Macron et du coup vous votez plus
non,
Macron.
Non, je ne vais pas voter pour lui.
Ah là 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 là, il perd un vote pour un sandwich. Ça va lui coûter la médaille. Alors ne négligeons pas l'importance de Sodebo hein, dans cette fin de campagne. On sait que le président des boulangeries, Paul, soutient Fillon. Hein. Est-ce qu'il y aura un complot du jambon beurre? Affaire à suivre. Alors heureusement, il y a des électeurs quand même de Macron qui fondent leur soutien sur des arguments plus solides comme ce jeune.
Vous avez déjà vu un arc-en-ciel?
Ouais.
Vous savez ce qu'on fait avec un arc-en-ciel?
Non, dites-moi.
Eh ben, la synthèse, c'est une seule couleur. Eh ben, donc, il faut toutes les couleurs pour arriver à une synthèse.
Emmanuel Macron est un arc-en-ciel.
Ouais, je trouve qu'il est pas mal dans le genre. Ça lui va bien, non?
Oui, 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 il est reconnu donc le responsable du groupe Les Amateurs de LSD. avec Macron. Argument solide, toujours avec un jeune. Il y avait beaucoup de jeunes hier, hein, hier après-midi chez Macron. Qu'est-ce qui lui plaît chez lui?
Ah, chez Macron, on va dire que c'est le personnage, la vision, ce qu'il incarne, plus que son programme à proprement parler, détaillé, etc. Où on a bien vu qu'il restait plutôt vague et pas très précis dans ses propos.
Et ça vous dérange pas ?
Non, ça me dérange pas parce que je pense qu'un programme, c'est surtout fait pour être élu, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément calculé au niveau du financement. Derrière, on sait pas vraiment exactement comment on va s'en sortir et comment on va faire.
Mais quand même, vous allez voter Macron.
Oui, mais quand même, je vais voter Macron.
Mais oui, mais pourquoi pas hein. C'est comme les nems, si vous voulez. Si on savait ce qu'il y avait dans les nems, on n'en mangerait pas. Voilà, en fait, c'est pas un arc-en-ciel, c'est un nem. Si j'avais été Frédéric Fromet, j'aurais même dit que c'est un nem Emmanuel Macron. Oh là 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 là, mais je ne veux pas empiéter sur le terrain du maître. Donc, Macron, c'est un nem avec une nouvelle saveur. C'est pas comme les autres, m'a confirmé ce même jeune.
Le fait qu'il soit aussi passé par le privé auparavant, tandis qu'en face, on a des personnes qui ont fait Sciences Po, l'ENA, qui ont à peu près tous le même cursus et qui sont dans la vie politique depuis.
Attention, parce qu'il a fait l'ENA, je crois, Macron.
Il a fait l'ENA, oui, il a fait l'ENA, mais comme je dis, il est passé par le privé. Par
oui, il s'est fait payer les études, donc l'ENA part de l'argent public et après il s'est barré dans le privé, c'est ça?
Ok, mais ça, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange.
Non, mais c'est pas dérangeant du tout, hein. On appelle ça du pantouflage. Il faut rester droit dans ses chaussons quand on déclare à côté vouloir supprimer 150 000 fonctionnaires. Mais le jeune macroniste, vous l'avez compris, il s'en fout. Il veut du neuf. Et le plus âgé macroniste, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense de la proposition d'Emmanuel Macron au bout de deux offres d'emploi refusées, radiation de Pôle emploi?
Moi, je trouve qu'on a deux offres qui correspondent au profil. Et ben, au bout de la deuxième, si on n'accepte pas, ben, on n'est plus au chômage.
Même si c'est donc, mal payé.
Mais enfin, on ne peut pas non plus éternellement vivre aux frais de la société, parce que la société vous dit, ah ben, vous ne voulez pas, au bout de 10 offres d'emploi, ben non, ben, on continue, ben, on vous paye. Ben, c'est le système qui va à sa mort. Hein. C'est une mesure qui est logique, qui est dans un pays moderne.
Oh, le pays moderne. Le programme qui ferait passer Nicolas Sarkozy pour Arlette Laguiller. Et la modernité, on le sait, c'est de faire culpabiliser des chômeurs. C'est beau, cette France que nous promet Macron. L'ubérisation, on appelle ça. Un beau projet qui permet de payer, par exemple, les gens 3,50 euros de l'heure.
Oui, mais enfin bon, je veux dire, ils sont payés 3,50 euros de l'heure. Pour beaucoup, c'est déjà mieux que zéro.
Est-ce que ça ne fait pas des travailleurs pauvres?
Quand on a un travail, eh ben on cherche, on a d'abord une existence, enfin on dit on a une certaine dignité.
On a une dignité quand on est payé 3,50 euros de l'heure?
Mais non, mais on a une dignité par rapport à quelqu'un qui ne vit sur rien. Non?
Ah, il y a quand même un doute. Il y a quand même un doute. C'est sûr que vouloir voter pour Kennedy et s'apercevoir qu'en fait c'est un Thénardier, c'est compliqué. Alors pour en finir avec ce doute hein, quasi métaphysique, il me fallait un scientifique. Et ça tombe bien, Macron compte dans ses rangs Cédric Villani, notre champion du monde de maths, qui m'a bien résumé le sentiment et ce qui lui plaisait chez Manu. Pourquoi il était là?
Pour apprécier et me ressourcer dans l'énergie qui se dégage toujours de ces meetings.
Ah, vous trouvez qu'il y a une énergie qui se dégage des meetings d'Emmanuel Macron?
Moi, je trouve qu'il y a de l'énergie et je suis très sensible à ce qui circule comme émotion dans la salle.
Ah mais alors là, vous me parlez pas de programme, alors c'est vraiment en termes d'énergie, en termes de sensations.
Vous savez, j'ai fait ma carrière en physique mathématique, même en physique statistique. Les mouvements de foule, les gestions d'opinion, ce sont des choses qui me fascinent.
Mais moi aussi, je suis fasciné par tous ces gens emportés dans cette bourrasque. C'est un mélange d'économie libérale la plus violente et de plan de communication le plus décomplexé. S'il est élu, Manu, la rentrée sociale s'annonce chaude, car qui sème le vent récolte la tempête.
Guillaume Meurice, merci. Mais je pense qu'en partant dans le privé, avec le pantouflage, Emmanuel Macron dit avoir remboursé.
Alors le Figaro dit qu'il n'a pas remboursé pour l'instant.
Enquête.
Ouais. Enquête.
Ah oui,
c'est le Figaro qui le dit.
Le pantouflage, ça, ça ne pardonne pas. Hein, donc on suit le dossier. On fera un sujet pantouflage d'Emmanuel Macron.
Bon, avant, il a fait cagne, hypocagne, tout ça, c'est quand même l'argent public.
Oui,
ouais,
bien
payé.
Sûr, évidemment. On va aborder ce deuxième sujet avec vous, Raphaël Personnaz.
Ah ouais, je ne vous rendrai rien quand j'irai à RTL.
Oui, je vous rendrai rien. Personne n'a des infos là-dessus. Non, très bien. Deuxième sujet. Parce qu'on change le monde, Raphaël, avec vous. Hein. On comptait sur vous. On comptait des solutions pour la France avec vous. L'état d'urgence est en vigueur depuis plus de 500 jours. C'est bientôt plus que le nombre de jours où la Belgique est restée sans gouvernement. Je tenais à le rappeler. Oui, parce qu'on a assez souffert avec cette histoire. Des universitaires et des associations demandent à François Hollande de ne pas oublier de l'éteindre en partant, hein, l'état d'urgence. Devenu tellement normal qu'on oublierait presque à quoi ressemble une véritable situation d'exception, de vraie urgence comme celle-ci.
Putain, il va sauter, fais pas le con.
François, tu craques, tu as faim, tu veux manger quoi, François?
De petites soupes sur son petit feu, dans sa petite marmite.
J'ai qu'un sandwich, moi.
Est-ce que quelqu'un aurait deux petites soupes sur son petit feu, dans sa petite marmite?
Français, t'as l'air bourré.
François, François, qu'est-ce que t'as bu?
Rien.
Ouais, non, mais j'en ai marre. Je peux pas rester, moi je dois aller à Levallois, il y a Balkany qui s'est barricadé, j'ai pas que ça à foutre.
Oh, attends, c'est bon.
Madénian et VDB dans leur pastille, vous pouvez désormais voir sur W9, puisque à France Télévisions, ils n'en ont pas voulu.
Ça les fait Paris.
Eh oui. Alors, donc on vit sous l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015, soit depuis plus de 500 jours. Et donc on va élire démocratiquement notre président sous cet état d'urgence. Sur le principe, vous, Raphaël Personnaz, vous trouvez quelque chose à redire à ça ou c'est bon, c'est pas très grave?
Je suis très embêté par votre question. J'aimerais qu'il n'existe pas, évidemment, mais la dernière fois qu'on a parlé de le lever, le soir même, il y avait un attentat à Nice. Alors c'est toujours compliqué, quoi. On sait pas. Je sais pas dans quelle mesure il empêche des gens de mourir. Alors je sais pas dans quelle mesure il y a aussi des débordements. Alors j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quand même une haute autorité qui faisait attention. J'en sais rien, j'aimerais bien qu'on arrête ça, évidemment. Je sais pas quoi dire, j'ai l'impression d'être macroniste un petit peu.
Non, pas du tout, en fait vous décrivez.
Selon votre définition, j'entends. Hein. Attendez, je vais pas aller sur ce terrain-là.
Non, mais vous décrivez.
Il est malade ici.
C'est bon, on va le choper, c'est
non,
bon.
Mais vous décrivez ce que...
Dis-le, tu votes la salle.
moi j'ai dit, c'est mon chouchou.
Vous décrivez ce qu'on pense tous, c'est qu'on est aussi, on se demande un peu ce que c'est que finalement ce truc, on nous dit vous êtes en état d'urgence, normalement on peut pas manifester, mais on manifeste quand même, il y a des militaires dans la rue. Un exemple tout concret, moi ce matin j'ouvre ma porte pour partir travailler et je vois 4 militaires et je suis tellement habituée que je fais salut les gars.
Bah ouais, ils sont sympas, ils sont beaux en plus, non, vous trouvez pas?
Ça
vous ravit. Pas mal d'amis qui sont très contents, très contentes aussi de les voir. Après, j'ai vu qu'il y avait eu 21 manifestations interdites depuis 2015.
Ah oui, alors c'est vrai. Et des assignations à résidence aussi.
Des assignations à résidence,
Et le jour où on choisit ce sujet, une préparation d'attentat qui est déjouée, effectivement. Mais donc, de voir les militaires dans les rues, etc., on s'est habitué à ça, finalement.
Mais j'ai vu qu'en Belgique et en Suède, il n'y avait pas d'état d'urgence.
Effectivement.
Mais par contre, moi, je trouve qu'on voit plus de militaires. Il y a à la sortie de la gare de Bruxelles, il y a presque un tank. Ils sont là. C'est assez marrant. Et tout le monde trouve ça normal. Chez nous, c'est des niveaux de risque. Donc là, on est au niveau 3 et il y a encore un niveau 4 au-dessus.
Voilà. Et donc, il y a une tribune dans Libération, signée par des associations et des universitaires qui demandent à François Hollande, par décret, d'arrêter l'état d'urgence parce que ça doit être une situation d'exception et là, elle est normalisée depuis 500 jours. Et je vous rappelle que s'il y avait un énorme attentat ou quelque chose d'autre... la loi martiale, donc c'est un cran, là, c'est quand même
qui
critique.
C'est martial.
C'est les réquisitions, c'est tout ce que vous voulez. Bref, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni ont aussi connu des attentats et aucun de ces États n'a jugé nécessaire de déclencher cette mesure. C'est un des arguments des signataires dans Libération. Voilà, oui, on donne un peu d'informations.
On a été complet.
C'est carré.
Raphaël Personnaz, avant de revenir à scène de la vie conjugale et votre considération, Samir Bouadi.
Ben oui, mes amis, parce qu'à 5 jours du premier tour d'élection présidentielle, on voit nos prétendants, ça donnait à d'ultimes génuflexions. On a même vu, par exemple, ce matin, le haringiste, le plus jeune d'entre eux, se retenir de gerber devant le spectacle toujours réjouissant d'un type qui découpe fièrement une tête de veau. Tout ça sous couvert d'un folklorique hommage à l'auteur du célèbre slogan « Manger des pommes, c'est bon pour la mémoire ». Bref, on le voit, chacun, chacune jette ses dernières forces dans la bataille, tout est bon dans le cochon, et à droite, on se droitise, et à gauche, on se gauchise, et au centre, on se radicalise vers le milieu. Alors pour ce qui nous intéresse, nous, à savoir la laïcité aujourd'hui, les langues sont un peu, on va dire, pâteuses ces derniers temps. Because, mes amis, en France, laïcité égale blablabla bla, 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 théorique sur le voile. Eh ouais, c'est comme ça. Et en ce moment, il est bon de ratisser large, donc voilà. Or, la question est bien plus vaste et ne renvoie pas uniquement à la place de la religion musulmane, pour prendre un exemple comme ça fortuit, au hasard. En fait, la laïcité, tout le monde en parle sans savoir exactement ce que c'est. Oui, d'accord, on connaît la loi, les dates, et on sait que grosso merdo, la laïcité, c'est je t'interdis rien, crois en ce que tu veux, mais me gonfle pas avec tes certitudes. Moi, je te gonflerai pas avec les miennes. D'accord, Lee Kuan Yew. Alors, je prends un nom nord-coréen, un dessin, sachant qu'en Corée du Nord, seulement 0,2% de la population pratique ouvertement une religion, puisque là-bas, on prit un poupon hystérique et susceptible et surtout vivant. Voilà. Bon, à la lecture du dictionnaire de la laïcité, publié chez Armand Collin, vaste travail pluridisciplinaire dirigé par Martine Serre et Marc Horwitz, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose de cette noble tentative inouïe d'unir les femmes et les hommes autour d'un principe de respect qui est censé libérer les peuples. La laïcité n'est pas en soi une incitation au doute, à l'agnosticisme, à l'athéisme. Au contraire, elle a pu être défendue par des croyants, des vrais croyants, tout au long de sa courte histoire. Cet axe-là, à mon avis, me semble fondamental. L'émancipation de la femme, par exemple, un détail, tout le monde s'en fout, mais enfin, passons, on peut en parler quand même. Eh ben, ça passe par la laïcité. C'est tout con, mais c'est comme ça, et c'est une évidence. Encore faut-il se souvenir d'Olympe de Gouges, de Clémence Royer, ou encore de Maria de Rheims. Eh ben, c'est ce que font les auteurs de ce livre. Parce qu'au-delà des notions, des controverses célèbres, des discours enflammés, admirablement rendus ici, il y a aussi des femmes et des hommes. On y apprend. Enfin, moi, j'ai appris que Clémenceau, à peine désigné maire de Montmartre en 1870, il a 29 ans à l'époque, signe une circulaire dans laquelle il rappelle aux instituteurs de sa commune qu'ils n'ont, je le cite, « aucun ordre à recevoir du curé ». S'il avait été élu maire de Neuilly, la face du monde en eût été changée. Toujours est-il que la lecture de ce formidable travail, cette somme, est l'occasion de réfléchir à la laïcité dans le monde aussi. Bah oui, parce que chose que l'on ne sait jamais, vu qu'on a toujours l'impression, enfin moi j'ai l'impression, que la laïcité c'est un truc franco-français, français, peut-être même un peu belge.
Vous êtes un peu ethnocentré.
Bah oui, on est un peu ethnocentré, c'est vrai. Par exemple, tenez Charline, la Colombie est laïque. Bah ouais, oui. Là-bas, constitutionnellement, il est interdit d'établir une religion, de s'identifier de façon formelle, explicite à une religion, de réaliser des actes officiels d'adhésion à une religion, j'en passe, et des meilleurs. Il n'y a plus de doute, ils en sniffent de la bonne là-bas. On pourrait aussi parler du Japon, mes amis, et se rendre compte que l'Europe aussi, l'Europe, elle est vraiment à la ramasse en termes de laïcité. Donc le dictionnaire de la laïcité, chez Armand Collin, sous la tendre férule de Martine Serre et Marc Horwitz, à lire absolument à l'heure où nos politiques parlent de tout, même de perturbateurs endocriniens, c'est dire à quel point ils veulent prendre soin de nous. Il serait bon qu'ils lisent ce livre, comme on prend un traitement contre les perturbateurs endoctrinien.
Merci Samir Bouadi. Vous êtes sur France Inter, il est 17h50. Nous sommes en compagnie de Raphaël Personnaz qui joue Scène de la vie conjugale avec Laetitia Casta au Théâtre de l'Œuvre. Et justement, tiens, parmi les missions de service public, voici quelques conseils pour la paix des ménages. Un institut londonien croit détenir la méthode pour évacuer en deux phrases le conflit dans un couple. D'autres avant avaient essayé.
Si vous pouviez trouver un mode de communication qui ne passe pas par l'insulte, je pense que le reste du groupe apprécierait. Parce que là, on va passer plusieurs semaines ensemble.
Je parle comme je veux.
Vas-y, insulte-moi, je t'éclate la tête.
J'ai apporté le repas de midi pour tout le monde. Une salade riz tomate avec du thon.
Ne provoque pas.
Du fromage et des olives. Un 4 quarts pour le dessert.
Je t'éclate la tête, la rate et le buffet, je te transforme en éplucheur.
Allez, on marche encore une petite heure. Et on pique-niquera.
C'est toi l'éplucheur.
Dans un très beau site. Par contre, à partir de demain, je vous demanderai de prendre chacun votre repas dans votre sac. Vous connaissez la règle des randonnées? Chacun?
Ça merde.
Bon, et même ceux dont il a besoin.
C'est ce que je dis.
Pascal Légitimus, Muriel Robin et le regretté Artus de Penguern dans Saint-Jacques-la-Mecque de Colin Serrault, qui s'y connaît en scène de ménage dans ses films. Alex, je vous confie ce sujet, vous qui avez vu la pièce avec Raphaël Personnage.
Mais oui, parce qu'ils expliquent que le problème dans les couples en général, c'est de cacher notre souffrance quand nous avons été meurtris. C'est-à-dire de refuser d'admettre l'émotionnel derrière la dispute. J'ai l'impression que c'est ce que Bergman fait, il passe au-dessus, lui. Et on est vraiment dans l'émotionnel. Ils arrivent à se parler, ces deux personnages-là.
Oui, mais ils n'arrivent pas à s'avouer au début, en tout cas, qu'ils ont le même problème. Elle le dit à sa manière, lui est toujours un peu dans le cynisme. Donc, lui n'arrive pas tout de suite à dépasser une espèce d'humour noir comme ça, de cynisme, ce qu'elle a absolument pas. Elle est beaucoup plus franche, en fait, dans son rapport à ses sentiments. Et lui, quand il arrive enfin, après plusieurs années, à exprimer ce qu'il pense sincèrement, et ben ça se fait dans une souffrance terrible parce qu'il a gardé pendant 10 ans, ou c'est le poids de l'éducation aussi, le poids de la bourgeoisie, puisqu'il s'agit là d'un couple assez bourgeois. Et au-delà de la bourgeoisie, je pense que c'est les conventions amoureuses qui... J'ai souvent le sentiment que les couples s'enferment dans des schémas que personne ne leur a demandé d'appliquer, et pourtant qu'on se fixe parce que, alors, soit les parents l'ont fait, ou au contraire l'ont pas fait, donc on se dit, moi je vais agir de cette manière-là pour quadriller un peu les choses. C'est quand même fascinant, cette matière qu'est l'amour, qui fait que, vous parliez de la Corée du Nord, que même Kim Jong un ou une, ou je sais, il, ou enfin je sais, même lui, enfin, je sais pas si c'est le bon exemple d'ailleurs.
Lui-même déjà.
On va prendre un grand scientifique, en tout cas, même lui qui a un esprit rationnel sera comme un enfant face à cette matière-là. Je l'ai répété beaucoup dans d'autres émissions, parce que j'ai fait d'autres émissions et j'en suis désolé pour.
Là, il nous a trompé.
Je suis bien content d'être. Voilà, exactement. Ce personnage de Johan dit à un moment donné que sur le plan des sentiments, on est des illettrés, qu'on nous apprend jamais rien là-dessus, qu'on nous apprend plein de choses sur les perturbateurs endocriniens, l'agriculture bio, il dit pas les perturbateurs endocriniens, et tant mieux parce que je bafouillerais tous les soirs. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une matière dans laquelle on a absolument aucune connaissance, ou en tout cas aucune certitude.
Justement, ce genre d'institut qui pense vous aider dans ce truc-là.
Et vous apprendre, donc.
Oui, mais la thérapie de couple, elle est quelque part en allant voir le spectacle d'une certaine manière, parce qu'on y voit des choses et on s'y projette. C'est oui, mais Bergman, après, il a fait que ça en écrivant cette pièce.
Après, moi, j'ai l'impression que chaque couple est comme un territoire ou comme un pays qui a ses propres lois. Si on essaie d'appliquer les lois d'un pays à un autre, ça ne marche pas. Ouais. C'est comme ça. Donc, c'est Johan et Marianne. Après, ça s'applique pas à tous les couples, je pense pas.
Je me suis demandé.
Vous avez regardé la pièce ou pas?
On vous sent inquiet, on vous sent en recherche de réponse.
Ça m'a pourri les 3 jours qui ont suivi.
Mais dites pas ça, les gens vont pas venir.
Mais si, parce que. Mais on ne consomme pas la culture pour ne pas réfléchir.
J'aime vous entendre parler.
Évidemment.
Comme ça. Et j'aime vous entendre parler.
Nous sommes la culture pour être dérangé.
Moi, j'aime pas quand vous dites consommer et culture dans la même phrase.
Et ça, on profite de la culture.
C'est vrai.
Mais lequel,
on déguste.
Lequel des
oui,
deux,
voilà, on déguste.
Lequel des deux a raté sa vie? Celui qui est parti ou celui qui a laissé partir? Ou les deux? Ou est-ce qu'aucun des deux?
Oula, raté sa vie, c'est tout de suite un
jugement.
Mais
il se pose ces questions-là. C'est-à-dire que quand lui, il se rend compte que c'était pas tellement mieux.
C'est elle qui lui dit qu'il est un raté. Lui, il ne se permet pas. Enfin, je vais le défendre un petit peu, ce garçon.
Parce c'est une pièce, hein, c'est pas vous. Hein.
Ouais.
Prenez
non.
pas pour vous.
Bah, qu'est-ce que vous en savez? Vous savez ce que...
Je suis désolé.
Vous savez pourquoi j'y mets tant de cœur chaque soir? Vous savez à quel degré émotionnel je me suis impliqué là-dedans?
Pas permis de vous poser.
Alors, excusez-moi, je sais qu'on parle de sujet... Bon, bref. Qu'est-ce qu'on disait?
Est-ce que justement, dans la dispute et dans les crises de couple, il y en a un qui est perdant? Ou est-ce que finir tout le monde a quelque chose à gagner?
Si on veut, dans le débat, avoir le dernier mot, je pense qu'on a tort à tous les coups. C'est des gens qui essayent pendant 20 ans d'accéder à une forme de vérité. Est-ce qu'ils y accèdent au bout de 20 ans? Je le crois, il y a quand même un espoir, mais à quel prix? C'est-à-dire, ça se fait pas dans quelque chose de formaté, ou en tout cas d'édulcoré.
Cet article prétend trouver la solution pour déminer une situation en 2 phrases.
Je vous les lis?
Ouais, allez-y. Ah,
la première, c'est « Je suis tellement blessé que toi, en qui j'ai confiance émotionnellement, aies pu me dire ou me faire ça. » Et la
c'est Madame Figaro, ça.
Et la seconde, maintenant, j'ai peur d'être exposé à toi, que tu puisses me blesser de cette manière à nouveau. Et une fois que vous avez parler de ces deux choses-là, c'est réglé, vous repartez pour 10 ans.
Moi, j'ai la phrase pour miner une situation. C'est pourquoi tu fais la gueule?
Pourquoi tu fais tout le temps la gueule?
Vous êtes déjà dans le duo avec Laetitia Casta, vous êtes déjà un peu frité en travaillant ou jamais?
Bien sûr.
Ouais. C'est vrai?
C'est peut-être un peu de votre faute, rassurez-moi.
C'était de ma faute, évidemment.
Mais... Non, mais elle est un peu chiante, c'est vrai, quand on était ensemble, elle était déjà comme ça. Enfin, je ne peux pas vous raconter.
Elle m'en a parlé d'ailleurs. Mais... mais c'est sûr. Non, en fait, c'est pas tant. Dans le travail, d'ailleurs, il est normal de se friter.
Oui,
moi, je trouve ça totalement sain. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on aborde une pièce comme ça, qui est tellement juste sur chaque dialogue et qu'on la répète pendant 2 mois, 9 heures par jour, c'est sûr que vous n'en sortez pas indemne et que vous devenez sans doute. Ouais, un petit peu tendu, un petit peu.
Fleur de peau.
Alors on va tester en conditions réelles, Raphaël Personnaz.
Alors là, c'est acting, mais du lourd. Hein, Bergman à côté, vous êtes tranquille. Vous êtes le conseiller presse d'Emmanuel Macron. Et comme hier, il y avait énormément de soutien, il les a pas tous reconnus. Tout ça, vous allez évidemment lui les présenter.
Guillaume Meurice. Tout ça Meurice, est vrai. Hein.
Bien sûr que tout ça est vrai. Tous les soutiens cités sont vrais. Guillaume Meurice est Emmanuel Macron. Et puis Charline et moi, nous varions les soutiens qui vont être présentés au fur et à mesure.
Brigitte, tu m'entends?
Doucement, monsieur Macron, c'est pas Brigitte, là.
Ah bon? Mais c'est qui, alors?
C'est l'un de vos soutiens, c'est Lynn Renault.
Vous êtes sûr? En même temps, ça m'arrange.
Mais les jeunes sont avec vous, monsieur Macron.
Pardon de vous le dire, mais on a qui d'autre?
Hein? Daniel Evenou.
Ah, super, une ado.
On a aussi Catherine Lara.
Ah, j'adore, je suis la roqueuse de diamants.
Ah, vous aimez le rock?
Non, les diamants. Et elle, c'est qui?
C'est Laurence Haïm, votre conseillère en com, elle répond à une interview pour une télé américaine.
Ah. Emmanuel is the best for the job of the president of the France.
Ah, elle est nulle en anglais, là.
Je sais, pourtant, elle a passé plus de 20 ans aux États-Unis. Comme correspondante.
Ah bah je sais pas avec qui elle a pu correspondre là-bas en parlant comme ça, mais.
Bonjour Manu!
Ah monsieur Macron, alors je vous présente Stéphane Bern.
Mais oui, c'est moi!
Vous aussi vous êtes en marche?
Mais oui, mais j'adore quand je me fais marcher dans les châteaux de la Loire, le château de Versailles, le château de Chantilly.
Merci. Qu'est-ce qui vous plaît dans mon programme?
Mais j'adore les photos d'un gala, Paris Match, Manu!
tout de suite, la météo de la semaine!
Brigitte?
Mais non, toujours pas, c'est Catherine Laborde.
Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle?
Je vous soutiens, voilà. Emmanuel, je suis là pour vous dire quand il faut que vous portiez un cache-col afin de protéger vos cordes vocales.
On n'aurait pas pu avoir la Miss Météo de Canal plutôt, là?
Alors, on y a pensé, mais dans le genre speakerine, Daniel Gilbert a appelé.
Ah, non, ça va aller, elle soutenait Giscard déjà.
On a aussi Bernard Montiel.
Il est vivant, lui?
Et on a Pierre Arditi, Vincent Lindon, okay. Cédric Villani, la chanteuse Dani.
Eh ben, c'est pas l'élection présidentielle que j'aurais dû me présenter, hein.
Vous pensez à quoi?
J'aurais dû plutôt convoiter le poste de Michel Drucker.
Pas loin d'être vrai. Hein.
Oui, on imagine les scènes de la vie conjugale chez Brigitte Macron et Emmanuel Macron.
Est-ce qu'on imagine? Oui. En fait, on imagine tout le monde et à commencer par ne pas devoir s'imaginer soi. Je pense que c'est bien d'observer ce couple-là en se disant que c'est un couple lambda et comme vous avez si bien dit, c'est pas parce que ce couple-là fonctionne comme ça que...
Que tous les couples fonctionnent comme ça. N'ayez pas peur, venez en couple. Venez célibataire, puis venez en couple. Achetez 2 places, puis 3 pour des amis.
Envoyez des amis.
Prolongation jusqu'au 28 mai. 55 rue de Clichy, Théâtre de l'Œuvre avec Laetitia Casta.
Et Raphaël Personnaz qui propose d'aller le voir 2 fois.
2 fois d'affilée. Et si vous venez 2 fois d'affilée, on va dîner ensemble après.
Attention, c'est au Théâtre de l'Œuvre du mercredi au samedi à 21h, les samedis et dimanches également à 17h, avec Laetitia Casta, donc dans une mise en scène de Safi Nebout.
C'est très beau, très sobre, très beau.
Voilà, recommandé par Alex Vizorek.
Ah, j'ai bien aimé,
tout à
ça
fait.
M'a un peu. Voilà.
Merci les amis. Alors demain, théâtre toujours, on recevra Alexis Michalik. Et sachez que lundi matin, 24 avril, au lendemain du premier tour, matinale spéciale en public dans le hall de la Maison de la Radio. Vous pouvez vous inscrire sur maisondelaradio.fr pour venir voir Patco et toute l'équipe du 7-9. Voici le mot de la fin, une réponse toute prête si un institut de sondage vous appelle.
Je vais raccrocher ce téléphone et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous.